Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Que se taisent les armes, la guerre est toujours un échec pour l'humanité. L'appel lancé ce samedi soir lors de la veillée de prière pour la paix en Syrie et dans le monde entier. Place Saint-Pierre, on a prié avec le pape François pour que ce conflit prenne fin et n'embrasse pas toute la région. Nous verrons le poids de la mobilisation des catholiques pour cette paix si désirée. Toute l'Église est mobilisée, les initiatives se multiplient, les évêques dans différents pays ont exprimé leurs sentiments sur la volonté des États-Unis et de la France d'intervenir contre le régime de Bachar al-Assad. Premier concerné, les évêques américains. Ils ont envoyé une lettre à Barack Obama. Nous passerons ensuite à la dernière rediffusion de l'été des Livres pour Dieu de Sœur Catherine Aubin. Nous avons choisi Martin Stephens, auteur de Vivre ensemble, la fin du monde. Enfin, le commentaire de l'évangile de ce dimanche du père Pascal Montavi, évangile selon saint Luc, « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut être mon disciple ». Une ferveur immense, une foule compacte de dizaines de milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre pour cette veillée de prière voulue par le pape François. Une veillée de 4 heures qui a débuté à 19h avec l'arrivée du Saint-Père sur le parvis de la basilique Saint-Pierre en présence de dignitaires des autres confessions chrétiennes et de responsables de l'islam. La prière du Veni Creator a retenti, puis l'icône de la Vierge de Rome, Salus Populi Romani, a été amenée en procession très solennellement. Le pape, simplement vêtu tout de blanc avec le visage grave, le chapelet a été récité, ponctué de longs moments de chants liturgiques et de musique classique, le tout dans un recueillement rare, surtout dans les pauses de prière silencieuses. Est arrivé le moment de la méditation du pape centrée sur le récit biblique de Caïn et Abel. Oui, a déclaré le pape, être une personne humaine signifie être gardien les uns des autres, mais quand se rompt l'harmonie, le frère à garder et à aimer devient l'adversaire à combattre, à supprimer. Dans chaque violence et dans chaque guerre, nous faisons ainsi renaître Caïn, nous tous.
Et anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli. Anche oggi alziamo la mano contro chi è nostro fratello.
Et aujourd'hui aussi, nous continuons cette histoire de conflit entre frères. Aujourd'hui aussi, nous levons la main contre celui qui est notre frère. Aujourd'hui aussi, nous nous laissons guider par les idoles, par l'égoïsme, par nos intérêts. Et cette attitude continue. Nous avons perfectionné nos armes, notre conscience s'est endormie. Nous avons rendu plus subtiles nos raisons pour nous justifier, comme si c'était une chose normale. Nous continuons à semer destruction, douleur et mort. La violence, la guerre apporte seulement la mort. La mort parle de mort, la violence et la guerre ont le langage de la mort.
La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte.
Je voudrais demander au Seigneur ce soir, a poursuivi le pape, que nous chrétiens, frères des autres religions, chaque homme et chaque femme de bonne volonté crie avec force. La violence et la guerre ne sont jamais la voie de la paix. Que chacun s'applique à regarder au fond de sa conscience et écoute cette parole qu'elle dit. Sors de tes intérêts qui atrophient le cœur, dépasse l'indifférence, vins tes raisons de mort et ouvre-toi au dialogue, à la réconciliation. Regarde la douleur de ton frère et n'ajoute pas une autre douleur. Arrête ta main, reconstruis l'harmonie qui s'est brisée, et cela non par le conflit, mais par la rencontre.
Finisca, finisca. Il rumore delle armi.
Que se taisent les armes. La guerre marque toujours l'échec de la paix. Elle est toujours une défaite pour l'humanité.
È sempre una sconfitta per l'umanità.
Et le pape lançait alors encore une fois les paroles de Paul VI. Plus les uns contre les autres, plus jamais, jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Au fil du temps, place Saint-Pierre, la prière s'est faite plus intense, plus dense. On pouvait palper cette immense imploration. Que cesse la guerre en Syrie et partout dans le monde. De Bagdad à Jérusalem, de Bombay à Buenos Aires, de Washington à Paris, de l'Afrique à l'Asie, tout ce que l'Église compte de responsables ont relayé le message énergique de François dans des sermons, des messages téléphoniques et sur les réseaux sociaux. L'initiative a reçu le soutien des patriarches du Moyen-Orient, unis par leur inquiétude d'un débordement de la guerre en Syrie et le soutien aussi des autres religions. Je laisse à présent la parole à Xavier Sartre pour la suite de ce magazine.
veillée de prière pour la paix en Syrie, au Proche-Orient et dans le monde entier ce samedi. Date fixée dimanche dernier par le pape François lors de l'Angélus. Un rendez-vous important pour un sujet politique qui mobilise l'attention de toute la communauté internationale. Alors que le conflit syrien dure depuis 2 ans et demi, l'attaque chimique du 21 août dernier a provoqué une vive émotion dans le monde entier et une vive réaction des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Washington et Paris sont depuis déterminés à punir le régime de Bachar al-Assad à qui ils attribuent cette attaque au gaz. Cette réaction belliqueuse ne convainc cependant pas tout le monde. Le Saint-Siège craint en effet que des bombardements ne fassent qu'alimenter une guerre qui a déjà trop duré. C'est dire si cette veillée est importante pour montrer la mobilisation de tous les catholiques, mais aussi celle de toutes les personnes désireuses de promouvoir la paix. Patrice de Plainquette, journaliste et écrivain français, auteur d'ouvrages sur le pontificat de Benoît XVI, revient sur le sens d'une telle veillée.
D'abord, ce qui est frappant, c'est l'intensité presque spectaculaire de la veillée. C'est sans précédent, en présence du pape. Et donc, si le pape François insiste tellement sur la gravité exceptionnelle de cette démarche, après avoir envoyé un courrier aux dirigeants du G20 à Saint-Pétersbourg, et après avoir appelé avec beaucoup de force à la paix en Syrie, c'est-à-dire en prenant position contre le projet de guerre de Obama et de François Hollande. D'une part, bien sûr, c'est la ressource spirituelle, c'est la demande au Seigneur, mais c'est aussi un message envoyé clairement aux dirigeants séculiers. 1,2 milliard de catholiques dans le monde, c'est la planète. C'est donc la planète catholique qui met son poids, je dirais presque démographique, dans la balance, parce que le sentiment de l'urgence pour la défense de la paix, c'est à la fois les catholiques qui sont à l'avant-garde, mais en même temps c'est un sentiment qui est partagé par tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion. Donc voilà le monde catholique littéralement à l'avant-garde d'une mobilisation pour la paix. C'est-à-dire que c'est la démonstration que le catholicisme, que l'univers catholique a un poids spécifique dans le débat sur l'avenir du monde, et que, alors qu'il était assez courant dans la presse occidentale d'ironiser sur l'Église catholique qui est toujours présentée comme en déclin, comme ne représentant plus grand-chose, etc., bien au contraire, la démonstration est faite que non seulement elle représente quelque chose, mais qu'elle a une force de mobilisation internationale unique aujourd'hui.
Patrice de Plainquette, joint par Bernard de Cotigny. Le sommet du G20 n'a absolument rien donné. Les ministres européens réunis ce samedi à Vilnius en Lituanie en compagnie de John Kerry, le secrétaire d'État américain, ont appelé une réponse claire et forte aux attaques chimiques, sans préciser ce qu'ils entendaient par là. Toutes ces manœuvres diplomatiques n'empêchent pas l'Église de faire son possible pour favoriser cette paix en Syrie. Chaque Église nationale prend la parole ou mène ses propres initiatives dans le cadre fixé par le pape. C'est le cas de l'Église américaine. Les évêques ont écrit au président Obama pour l'exhorter à renoncer à toute intervention armée et à favoriser une issue politique au conflit. Signataire de cette missive, le cardinal Dolan, l'archevêque de New York et président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, et Mgr Richard Pates, évêque de Des Moines, président du comité de la justice internationale et de la paix. Les précisions sur cette missive d'Antonino Gallofaro.
Convaincre Barack Obama de renoncer à tout bombardement sur la Syrie est une tâche difficile. Certes, il est normal de condamner l'usage d'armes chimiques, et sur ce point, l'épiscopat et la Maison-Blanche sont d'accord, mais pas question de s'engager dans un nouveau conflit. Les évêques se sont adressés au président en fort du soutien des catholiques, très nombreux à refuser toute intervention armée. Le souvenir de l'Irak et la débâcle américaine est encore proche. Dans leur lettre, les évêques rappellent bien qu'ils ont à cœur le sort humanitaire des Syriens, ceux qui sont restés au pays comme ceux qui vivent réfugiés dans les pays limitrophes. Leur but est de mettre fin au conflit, pas de l'alimenter. Toute intromission militaire dans les affaires syriennes serait selon eux contre-productive, exacerberait une situation déjà calamiteuse et n'aurait que des conséquences négatives. La conférence épiscopale américaine salue tout de même la patience et la retenue dont fait preuve l'administration Obama dans ce dossier. Elle la presse aussi de travailler urgemment et sans relâche à l'établissement d'un cessez-le-feu et à l'amorce de sérieuses négociations. Le but fixé est clair, construire une société syrienne qui inclut et protège tous les citoyens, y compris les chrétiens.
Antonino Gallofaro. Et le pape, lors de cette journée si particulière, a publié un tweet très simple « Priez pour la paix » avec une adresse internet, celle d'une page Facebook, celle de Newsva. La une de cette page est bien évidemment dédiée à cette veillée de prière pour la paix. Le chrétien ne doit jamais oublier que le centre de sa vie est Jésus-Christ. C'est ce que le pape François rappelait ce samedi matin lors de la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le pape, en ce jour si particulier, a centré son intervention sur les chrétiens qui vivent sans Jésus, une tentation que nous devons surmonter. Cet été, nous vous proposons donc une dernière rediffusion du livre pour Dieu. Cette semaine, je vous propose ainsi le livre d'un jeune philosophe qui nous invite à revenir à l'essentiel en méditant sur la fin du monde. Son nouveau livre, « Vivre ensemble la fin du monde », est audacieux. Il se demande comment bien vivre dans un monde dont on pressent qu'il court vers sa fin. Sereinement, Martin Stephens prend acte du fait que la fin du monde est en marche. Et celle-ci jette sur nos vies une lumière nouvelle qui en révèle le sens profond, écrit-il, et qui esquisse aussi un art de vivre pleinement, mais comme au second degré. En effet, au moment de quitter cette vie, l'urgence ne sera-t-elle pas de se réconcilier ? Martin Stephens est père de 3 enfants, il enseigne la philosophie en classe préparatoire littéraire à Metz, il est l'auteur d'essais sur Nietzsche et Simone Veil, il a publié l'an dernier un petit traité de la joie, il nous parle donc aujourd'hui de son dernier opus avec Catherine Aubin.
Martin Stephens, votre dernier livre s'appelle « Vivre ensemble la fin du monde ». Un peu comme s'il y avait 2 parties dans votre titre, « La fin du monde » et ce verbe « vivre » et « vivre ensemble ». Pouvez-vous nous expliquer ?
En réalité, il s'agit de prendre acte du fait que l'homme moderne ou l'homme contemporain sait qu'il trace sa route dans un monde qui ne fait plus sens. La fin du monde, ça n'est pas simplement ce qui nous a permis de nous donner quelques frayeurs fin 2012. La fin du monde, c'est la fin d'un monde partagé, la fin d'un monde qui fait sens. C'est la découverte de l'extrême précarité qui est celle de notre condition. Nous avons les moyens de détruire ce monde à grande échelle et nous avons aussi les moyens de faire un monde qui a été déserté par le bon sens élémentaire, face à un tel monde qui nous agresse, eh bien on pourrait donner dans la peur, dans la haine, on donnera nécessairement dans la colère, mais le but est d'abord d'accueillir cette situation qui nous est demandée de vivre, ce chaos qui nous est demandé d'endurer, et de le vivre ensemble, donc dans l'ouverture plutôt que dans la claustration.
Alors justement, Martin Stephens, vous proposez 6 pistes. 6 pistes dans ce livre pour vivre cette fin du monde.
Oui, en effet, si l'on part du fait que ce monde se présente à nous comme un chaos, et bien comme une nuit, il est possible de tenter d'imaginer des sillons lumineux au cœur de cette nuit. Et même, je dirais que c'est notre défi et notre tâche. La tentation serait de penser qu'il faut attendre que les conditions soient réunies pour aimer le monde. Or, au contraire, l'amour s'invente, l'amour se donne toujours par surcroît. Et donc, ce monde n'est sans doute pas aimable, mais c'est précisément pour cela qu'il a besoin de notre amour. Et donc, ces 6 pistes, en effet, c'est pas, par exemple, pour en prendre une, c'est le chant. Le chant, je crois que c'est beaucoup plus qu'une activité qu'on peut faire de temps en temps. Le chant, c'est une attitude existentielle fondamentale, car le chant est capable d'accueillir la déchirure, de l'accueillir en son sein et de créer une unité à partir de cette déchirure et sans rien renier de la déchirure. Je crois que c'est en effet le défi. La tentation serait de soit se dire que plus rien ne vaut la peine, ou soit de nier et de tomber dans un optimisme niais. Et j'aime bien cette idée que par le chant, nous pouvons rendre justice à notre désespoir sans toutefois s'y enfoncer, puisque le chant est adressé, puisque le chant est un ressurgissement.
Et vous posez cette question, qu'est-ce que être en amitié avec le monde ?
Être en amitié avec ce monde, c'est d'abord faire à partir de lui. ne pas lui demander d'être autre chose que ce qu'il est. Ce qu'il advient avec notre ami, nous le prenons à partir de ce qu'il est. C'est ce qu'il advient même dans la relation de Dieu à l'homme. Et il ne lui dit pas, va inventer autre chose que ce que tu es. Et je crois que nous devons poser le monde dans son désarroi pour le rejoindre et l'exaucer au-delà de ce qu'il est. C'est du coup la piste du combat aussi. Il s'agit de combattre, bien sûr, quand nous ne sommes pas d'accord. Mais il s'agit de combattre en aimant, de combattre parce qu'on aime cette humanité, avoir, comme je le dis dans le livre, le poing ouvert.
À la fin de votre livre, vous dites « Où aimerais-je me trouver au moment de la fin du monde ?»
Bien, je réponds à la messe, car je crois qu'il y a quelque chose de cette réconciliation qui nous est parfaitement donnée, qui nous est donnée entièrement. Pour un chrétien qui a la foi, il n'est pas dans l'espoir, mais dans l'espérance, c'est-à-dire qu'il sait que tout est accompli et que cette phrase a été dite sur la croix. La messe, c'est une trêve où nous nous souvenons que le mal n'aura pas le dernier mot.
Martin Stephens, philosophe français, dans l'ouvrage « Vivre ensemble, la fin du monde » était le livre pour Dieu, choisi par Catherine Aubin. Passons maintenant aux commentaires de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavy. Évangile du dimanche 8 septembre, 23e dimanche du temps ordinaire. Évangile selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. »
L'évangile de ce dimanche nous donne de méditer sur l'exigence de la condition de disciple. Comme une grande foule suit Jésus, celui-ci se retourne et dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. » Jésus appelle donc à une grande radicalité dans notre choix à le mettre à la première place. Nous sommes appelés à renoncer à tout, jusqu'à notre propre vie, afin de porter notre croix. Une telle exigence pourrait nous décourager. Qui peut en effet prétendre correspondre à une telle radicalité ? Ce discours absolu que prononce Jésus ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue sa propre attitude vis-à-vis de ses disciples. En relisant l'évangile, du début jusqu'à la fin, il est clair que lorsque les apôtres commencent à suivre Jésus, ils ne comprennent pas grand-chose. L'évangéliste Marc raconte même cet épisode où Jésus marche sur les eaux après la multiplication des pains et il conclut « Les disciples étaient intérieurement au comble de la stupeur car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. » Au moment de la passion, les disciples s'enfuient. Pierre prend même l'épée, puis renie son maître. Jésus ne les accable pas pour autant. Bien au contraire, il leur donne rendez-vous en Galilée pour leur apparaître, puis il les fortifie par le don de l'Esprit-Saint au jour de Pentecôte. Il est donc important de réaliser qu'en tant que chrétiens, nous visons un idéal. Lorsque nous mesurons la distance qui nous sépare de celui-ci, ne nous décourageons pas, mais disons-nous que nous sommes en chemin et que, petit à petit, avec la grâce de Dieu, nous nous rapprochons de notre Maître. Ensuite, Jésus raconte deux histoires pour montrer l'importance de calculer la dépense avant de s'engager. Celui qui veut bâtir une tour doit s'assurer qu'il a de quoi aller jusqu'au bout, sinon tous se moqueront de lui. De même, celui qui part en guerre doit vérifier que son armée est en mesure de vaincre l'armée ennemie. Si tel n'est pas le cas, il est préférable d'envoyer une délégation pour demander la paix. L'idéal que nous poursuivons, nous le connaissons. Il s'agit de suivre le Christ en portant fidèlement, jour après jour, notre croix. Pour y arriver, il nous faut être prévoyants, c'est-à-dire savoir puiser à l'unique source qui nous permettra de tenir jusqu'au bout. La radicalité à laquelle le Seigneur nous appelle ne peut être réellement vécue que par la prière. C'est là que Jésus nous communique sa grâce. Ne pas prier serait vouloir construire une tour sans avoir les moyens de la terminer. En ce dimanche, descendons dans notre cœur pour retrouver celui qui est toujours présent et qui nous attend.
Et c'est avec ce commentaire de l'Évangile que prend fin ce magazine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.